Physiologie du goût, variété 23. Bonheur en voyage. J'étais un jour monté sur mon bon cheval, la joie, et je parcourais les coteaux riants du Jura. C'était dans les plus mauvais jours de la Révolution, et j'allais à Dôle auprès du représentant Pro pour en obtenir un sauf-conduit qui devait m'empêcher d'aller en prison et probablement ensuite à l'échafaud. En arrivant vers 11 heures du matin, à une auberge du petit bourg ou village de Mont-sous-Vaudrey, je fis d'abord bien soigner ma monture, et de là, passant à la cuisine, je fus frappé d'un spectacle qu'aucun voyageur n'eût pu voir sans plaisir. Devant un feu vif et brillant, tournait une broche admirablement garnie de cailles, rois de cailles, et de ces petits râles à pieds verts qui sont si gras. Ce gibier de choix rendait ses dernières gouttes sur une immense rôtie dont la facture annonçait la main d'un chasseur. Et tout auprès, on voyait déjà cuit un de ces levrots à côte ronde que les Parisiens ne connaissent pas et dont le fumet embaumerait une église. « Bon, » dis-je en moi-même, ranimé par cette vue, « la Providence ne m'abandonne pas tout à fait. Cueillons encore cette fleur en passant, il sera toujours temps de mourir. » Alors, en m'adressant à l'hôte qui, pendant cet examen, sifflait les mains derrière le dos en promenant dans la cuisine sa statue de géant, je lui dis « Mon cher, qu'allez-vous me donner de bon pour mon dîner ?»«
Rien que de bon, monsieur. Bon bouilli, bonne soupe aux pommes de terre, bonne épaule de mouton et bon haricot. »
À cette réponse inattendue, un frisson de désappointement parcourut tout mon corps. On sait que je ne mange point de bouilli parce que c'est de la viande, moins son jus. Les pommes de terre et les haricots sont obésigènes. Je ne me sentais pas des dents d'acier pour déchirer les clanches. Ce menu était fait exprès pour me désoler, et tous mes maux retombèrent sur moi. L'hôte me regardait d'un air sournois et avait l'air de deviner la cause de mon désappointement. « Et pour qui réservez-vous donc tout ce joli gibier ?» lui dis-je d'un air tout à fait contrarié.
« Hélas, monsieur, » répondit-il d'un ton sympathique, « je ne puis en disposer. Tout cela appartient à des messieurs de justice qui sont ici depuis 10 jours pour une expertise qui intéresse une dame fort riche. Ils ont fini hier et se régalent pour célébrer cet événement heureux. C'est ce que nous appelons ici « faire la révolte ».«
Monsieur, » répliquai-je après avoir musé quelques instants, « faites-moi le plaisir de dire à ces messieurs qu'un homme de bonne compagnie demande, comme une faveur, d'être admis à dîner avec eux, qu'il prendra sa part de la dépense et qu'il leur en aura surtout une extrême obligation. »
Je dis, il partit et ne revint plus.
Mais peu après, je vis entrer un petit homme gras, frais, joufflu, trapu, guilleret, qui vint rôder dans la cuisine, déplaça quelques meubles, leva le couvercle d'une casserole et disparut.
« Bon, » dis-je en moi-même, « voilà le frère Tuileur qui vient me reconnaître. »
Et je recommençais à espérer, car l'expérience m'avait déjà appris que mon extérieur n'est pas repoussant. Le cœur ne m'en battait pas moins, comme à un candidat sur la fin du dépouillement du scrutin, quand l'hôte reparut et vint m'annoncer que ces messieurs étaient très flattés de ma proposition et n'attendaient que moi pour se mettre à table. Je partis en entrechat. Je reçus l'accueil le plus flatteur et au bout de quelques minutes, j'avais pris racine.
Quel bon dîner!
Je n'en ferai pas le détail, mais je dois une mention honorable à une fricassée de poulet de haute facture, telle qu'on n'en trouve qu'en province, et si richement dotée de truffes qu'il y en avait assez pour retremper le vieux Titon. On connaît déjà le rôt. Son goût répondait à son extérieur. Il était cuit à point, et la difficulté que j'avais éprouvée à m'en approcher en rehaussait encore la saveur. Le dessert était composé d'une crème à la vanille, de fromage de choix et de fruits excellents. Nous arrosions tout cela avec un vin léger et couleur de grenat. Plus tard, avec du vin de l'Ermitage. Plus tard encore, avec du vin de paille, également doux et généreux. Le tout fut couronné par de très bons cafés, confectionnés par le tuileur Guilleret, qui eut aussi l'attention de ne nous laisser pas manquer de certaines liqueurs de Verdun, qu'il sortit d'une espèce de tabernacle dont il avait la clé. Non seulement le dîner fut bon, mais il fut très gai. Après avoir parlé avec circonspection des affaires du temps, ces messieurs s'attaquèrent de plaisanteries qui me mirent au fait d'une partie de leur biographie. Ils parlèrent peu de l'affaire qui les avait réunis. On dit quelques bons contes, on chanta. Je m'y joignis par quelques couplets inédits. J'en fis même un en impromptu et qui fut fort applaudi suivant l'usage. Le voici. Air du maréchal Ferrand. Qu'il est doux pour les voyageurs de trouver d'aimables buveurs. C'est une vraie béatitude. Il y a ici une faute que nous conservons par respect pour le texte de l'auteur. Le passage qui suit le couplet fait voir d'ailleurs que nous ne faisons en cela que suivre son intention. Entouré d'aussi bons enfants, ma foi, je passerai séant, libre de toute inquiétude, 4 jours, 15 jours, 30 jours, 1 année, et bénirai ma destinée. Si je rapporte ce couplet, ce n'est pas que je le croie excellent. J'en ai fait, grâce au ciel, de meilleurs, et j'aurais refait celui-là si j'avais voulu. Mais j'ai préféré lui laisser sa tournure d'impromptu, afin que le lecteur convienne que celui qui, avec un comité révolutionnaire en croupe, pouvait se jouer ainsi. Celui-là, dis-je, avait bien certainement la tête et le cœur d'un Français. Il y avait bien 4 heures que nous étions à table, et on commençait à s'occuper de la manière de finir la soirée. On allait faire une longue promenade pour aider la digestion, et en rentrant, on ferait une partie de bêtes nombrées pour attendre le repas du soir qui se composerait d'un plat de truite en réserve et des reliefs du dîner encore très désirables. À toutes ces propositions, je fus obligé de répondre par un refus. Le soleil penchant vers l'horizon m'avertissait de partir. Ces messieurs insistèrent, autant que la politesse le permet, et s'arrêtèrent quand je leur assurais que je ne voyageais point tout à fait pour mon plaisir. On a déjà deviné qu'ils ne voulurent pas entendre parler de Monéco. Ainsi, sans me faire de questions importunes, ils voulurent me voir monter à cheval, et nous nous séparâmes après avoir fait et reçu les adieux les plus affectueux. Si quelqu'un de ceux qui m'accueillirent si bien existe encore, et que ce livre tombe entre ses mains, je désire qu'il sache qu'après plus de 30 ans, ce chapitre a été écrit avec la plus vive gratitude. Un bonheur ne vient jamais seul, et mon voyage eut un succès que je n'aurais presque pas espéré. Je trouvais, à la vérité, le représentant pro fortement prévenu contre moi. Il me regarda d'un air sinistre, et je crus qu'il allait me faire arrêter. Mais j'en fus quitte pour la peur, et après quelques éclaircissements, il me sembla que ses traits se détendaient un peu. Je ne suis point de ceux que la peur rend cruels, et je crois que cet homme n'était pas méchant. Mais il avait peu de capacité et ne savait que faire du pouvoir redoutable qui lui avait été confié. C'était un enfant armé de la massue d'Hercule. Monsieur Amondru, dont je retrace ici le nom avec bien du plaisir, eut véritablement quelque peine à lui faire accepter un souper où il était convenu que je me trouverais. Cependant, il y vint et me reçut d'une manière qui était bien loin de me satisfaire. Je fus un peu moins mal accueilli de Madame Pro, à qui j'allais présenter mon hommage. Les circonstances où je me présentais admettaient au moins un intérêt de curiosité. Dès les premières phrases, elle me demanda si j'aimais la musique. Oh, bonheur inespéré! Elle paraissait en faire ses délices, et comme je suis moi-même très bon musicien, dès ce moment, nos cœurs vibrèrent à l'unisson. Nous causâmes avant souper, et nous fîmes ce qu'on appelle une main à fond. Elle me parla des traités de composition, je les connaissais tous. Elle me parla des opéras les plus à la mode, je les savais par cœur. Elle me nomma les auteurs les plus connus, je les avais vus pour la plupart. Elle ne finissait pas, parce que depuis longtemps, elle n'avait rencontré personne avec qui traiter ce chapitre, dont elle parlait en amateur, quoique j'ai su depuis qu'elle avait professé comme maîtresse de chant. Après souper, elle envoya chercher ses cahiers. Elle chanta. Je chantais. Nous chantâmes. Jamais je n'y mis plus de zèle. Jamais je n'y eus plus de plaisir. Monsieur Pro avait déjà parlé plusieurs fois de se retirer, qu'elle n'en avait pas tenu compte, et nous sonnions comme deux trompettes le duo de la fausse magie. Vous souvient-il de cette fête? Quand il fit entendre l'ordre du départ. Il fallut bien finir, mais au moment où nous nous quittâmes, Madame Pro me dit « Citoyen, quand on cultive comme vous les beaux-arts, on ne trahit pas son pays. Je sais que vous demandez quelque chose à mon mari. Vous l'aurez. C'est moi qui vous le promets. » À ce discours consolant, je lui baisai la main du plus chaud de mon cœur. Et effectivement, dès le lendemain matin, je reçus mon sauf-conduit bien signé et magnifiquement cacheté. Ainsi fut rempli le but de mon voyage. Je revins chez moi à la tête haute, et grâce à l'harmonie, cette aimable fille du ciel, mon ascension fut retardée d'un bon nombre d'années.